Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. Nous prenons la direction du hameau de Courtille, entre la vallée du Dourdou et celle du Gosse, où Jacques nous accueille et partage son expérience de l'agriculture.
Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Oui, voilà, je suis donc Jacques Mousse, donc j'habite sur la commune de Calmès-Viala, au lieu dit Courtille, sur une exploitation en brebis laitière, et où nous avons depuis quelques années, 2 ou 3 ans, fait une production de lentilles sèches que nous vendons en circuit court. Donc nous avons des brebis laitières sur l'exploitation, c'est depuis très longtemps, puisqu'on a une personne dans mon entourage qui est remontée dans le temps, et en 1620, il y avait déjà des brebis laitières à Courtille, donc c'est pas de hier.
Oui, c'est sûr.
C'est pas de hier. Et donc nous vendons à Société des Caves, enfin, pour le moment c'est nous vendons à Société des Caves depuis longtemps, je dirais.
Toi, tu es agriculteur depuis combien de temps ?
Alors moi, je suis agriculteur, ben, je dirais, depuis l'âge de 14 ans, sans le savoir. Mais après, je me suis installé donc, en 1990, donc en associé avec mes parents, donc en GAEC à l'époque. Disons que l'année après, j'ai construit une bergerie avec un bloc de traite neuf à l'époque. Et donc, on est reparti en accroissement du troupeau à partir de cette date-là. Et après, mon épouse est venue nous rejoindre des années plus tard. Donc, maintenant, nous sommes en GAEC avec mon épouse et moi-même, puisque mes parents sont retraités.
Le GAEC, il s'appelle comment ?
Alors, c'est le GAEC de Courtille.
Hein.
On
ne
s'est pas embêté.
Voilà. Et c'est la ferme familiale que tu as reprise ?
Voilà, donc c'est une ferme familiale, oui, que j'ai reprise.
Oui, ils faisaient quoi avant ?
Mes parents, pareil, brebis laitières.
Brebis laitières.
Mais ça s'explique. Oui, mais ça s'explique en même temps, parce qu'ici, c'est quand même des terrains pentus, des terres assez séchantes. Et donc, la brebis laitière semblait bien adaptée à ce coin-là. Et c'est sûrement pour ça qu'on n'a pas eu d'autres productions que celle-là, parce qu'on ne pouvait pas en faire d'autres. Voilà.
C'était adapté
Adapté à la région.
Ouais. Toi, tu as toujours fait de l'agriculture ?
Alors moi, j'ai toujours fait de l'agriculture, oui.
Toujours ?
Oui, toujours. J'étais d'abord à l'école, au lycée agricole de Cazotte à Sainte-Afrique. Puis j'ai continué un peu mes études et j'ai été à Rodez, à La Roque. Et après, je suis revenu, mon armée après, puisqu'à l'époque, c'était la mode.
Oui, il fallait...
C'était la mode. Donc, il y avait l'armée, passage obligatoire. Et après l'armée, ben, je suis revenu sur l'exploitation. Voilà.
Toi, quand tu es arrivé, souvent, ce qui se passe, j'ai l'impression, c'est qu'un jeune, quand il intègre la ferme, il fait faire des nouveaux travaux.
Oui.
Pour adapter l'outil à l'agriculture qu'il a apprise à l'école, finalement, aux choses un peu modernes.
Oui, oui, ça a été le cas chez moi, quand on est arrivé. Déjà, à l'époque, il fallait avoir un projet chiffré, et il fallait prouver qu'on pouvait travailler une personne de plus sur la même exploitation. Donc la solution, elle était d'accroître le cheptel, voire d'augmenter les terres arables, mais ce n'était pas toujours facile. Dans cette occasion-là, j'ai créé une nouvelle bergerie, et après, on s'est mis à avoir d'autres systèmes d'alimentation, des tapis, automatiser les choses pour pouvoir travailler plus tranquillement et avoir plus de bêtes pour le même nombre de personnes. Quoi.
Et la transition avec tes parents, c'est passé naturellement ?
La transition s'est passée, oui, naturellement. Et petit à petit, disons que j'ai pris les rênes de l'exploitation. Mais ça a été aussi un avantage, c'est que du fait qu'on a les parents avant, on part quand même sur des bases, je dirais, qu'on connaît. Mais l'inconvénient du système aussi, c'est que il faut sortir des rails, mais doucement, quoi. On était sur quand même une production qui marchait bien, qui a toujours bien marché, bien fonctionné, quoi, sur laquelle on vivait bien, quoi. Donc c'était assez difficile d'envisager aussi une autre production que celle qu'il y avait déjà. Voilà.
Est-ce que tu en vis bien aujourd'hui de cette exploitation ?
Alors, moi je trouve que oui, qu'on en vit bien. Et on a une maison correcte, on a pu envoyer nos enfants à l'école qui ont fait des études supérieures pour un d'entre eux. Et puis, sans problème financier majeur, quoi. Voilà. Après, on en vit bien.
Oui, il ne faut pas demander...
Ben ça voilà, en Namibie, tout est relatif. Ouais. Après, à un moment, il faut que tu arrives à vivre avec l'argent que tu as, quoi. Parce qu'il y a, tout, il y a toujours... Ouais. On veut toujours plus, quoi.
Et sans se mettre du travail par-dessus la tête.
Et ça, voilà. Alors après, nous, on a eu assez tôt, avec mon épouse, une façon de travailler qui était de dire, ben, le soir, on ne voulait pas finir très tard. Donc on commençait plutôt à traire de bonne heure à l'après-midi, mais on l'a fait depuis longtemps, quoi. Parce que sinon, après, on avait enfin, nos enfants... Si le matin, tu te lèves à 6h du matin et que le soir, tu rentres à 8h, tu ne le vois pas dans la journée, quoi. Donc après, on a adapté un peu nos journées à l'école, à la façon dont travaillent nos enfants.
Tu disais aussi que vous faisiez des lentilles.
Alors voilà. Alors là, il y a trois ans maintenant, on s'est mis à produire des lentilles sèches. Alors l'idée des lentilles sèches, c'est encore une idée de plus. Petit à petit, elle a fait son chemin. Alors, la première année, ça a été assez difficile de trouver de la semence, déjà. Puis après, j'ai réussi à trouver de la semence de lentilles. Donc, on a semé des lentilles sans savoir vraiment trop vers où on allait. Et puis, on s'est aperçu que c'était plus difficile que ce qu'on croyait au départ. Mais en fait, on a mené au bout l'aventure. Et aujourd'hui, nous, on produit des lentilles vertes que l'on vend à la ferme ou dans certains magasins à Centrafrique, chez les paysans. Ou... Ouais. Bon. Et après, on a aussi mis un partenariat avec l'atelier de découpe de Camarès. Et on transforme une partie de ces lentilles en bocaux, lentilles saucisses ou lentilles merguez de nos brebis, j'y tiens. Et on les vend aussi, pareil, en vente directe. Quoi. Et alors, l'intérêt, ben, c'est que c'est génial de faire un produit jusqu'au bout. Ouais. Voilà. En fait, quand on vend du lait de brebis, on le vend parce qu'on sait que ça va devenir du roquefort, mais on n'a pas le retour des choses. On n'a pas la personne qui dit « Oh, il était super beau ton roquefort, j'en reveux, etc. » Tandis que là, on a la reconnaissance des gens. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup en agriculture, c'est-à-dire que tu as des gens qui arrivent, qui ont acheté un bocal, lentilles brebis, je ne sais pas, saucisse de brebis, je ne connais pas trop... Il goûte, il trouve ça bon, il revient, il te dit « Ah, c'était super, j'en ai fait goûter à mon cousin, mon frère, mon Simon-là », et ils reviennent. Et là, on a quand même cet aspect de travail bien fait, quoi, qu'on a pas, et cette reconnaissance. Ouais,
ouais. Oui, c'est important le retour du client.
Ah oui, très très.
Et alors, mais pourquoi vous êtes lancé à faire des lentilles spécifiquement? C'est quoi qui vous a fait faire ce choix-là?
Mais la lentille, déjà, c'est une plante qui n'a pas besoin d'azote. Donc, c'est une plante qui n'est pas consommatrice d'engrais. Deux, ça a un avantage, c'est que ça peut se conserver. C'est-à-dire, si on fait de la viande, eh bien, il faut la vendre dans un délai assez court et des fois pas évident. Et comme quand même la majorité de notre travail, c'est les brebis laitières, c'est quand même, ça prend du temps, beaucoup de temps. Donc il fallait trouver un produit qui puisse se conserver et qui puisse se transformer, mais en bocaux, c'est pareil, il y a un délai assez long, on n'est pas obligé de le vendre le lendemain, et qui nous permettait de pouvoir allier les deux, et puis de le faire à une période où on a moins de travail sur l'exploitation. Quoi. Les lentilles se font au printemps, au mois de mars, elles sont moissonnées au mois de juillet. Et après, on les fait sécher une paire de mois. Là, on le fait manuellement.
Après, il faut les trier.
Alors là, pour c'est les trier, bon, le souci du tri, c'est qu'on voulait un tri pour pouvoir commercialiser derrière. Donc, il fallait trouver un trieur agréé. Et le plus proche qu'on ait trouvé, c'est au puits.
Au puits envolé.
Voilà. Donc là, on part en expédition. Avec une remorque, une voiture, bon, et on prend nos sacs de lentilles, on les fait trier, on les ramène, et puis après, on est prêt pour la vente. Voilà.
Et ce qui est intéressant, là, c'est que en fait, tu as deux modèles économiques différents.
Voilà.
Tu en as un qui est assez conventionnel et connu, voilà. C'est livrer le lait à Roquefort, et l'autre, tu fais toute la démarche jusqu'à la transformation, quasiment, et la vente directe.
Voilà. Même et le marketing.
et même le marketing. Et alors, est-ce qu'il y aurait un des deux modèles que tu trouves plus vertueux ou, dans lequel tu te sens le plus à l'aise ?
Ah, mais moi, demain, je recommence à être paysan. Voilà, 55 ans, c'est recommencer. Il faudrait que j'aie une seconde vie. mais je recommence, je prends le second modèle, oui, c'est sûr.
D'accord.
Ah oui, sans problème. Mmh. Sans problème. Et il faut savoir que notre travail, à nous, c'est tous les jours un challenge. Mmh. Donc, un de plus, quoi.
Il faut prendre des initiatives.
Voilà. Ouais. Le matin, tu es vétérinaire, le soir, tu es mécanicien, l'après-midi, tu es comptable. Quoi. Enfin, tu dans la même journée. Quoi.
Voilà. Ça fait des belles journées.
Voilà.
On va passer aux questions un peu plus métaphysiques. Donc, tu m'as dit que tu as des enfants.
Oui.
S'ils veulent se lancer dans ce métier-là, est-ce que tu le leur conseilles ? Ou alors, un simple apprenti, peut-être, que tu peux avoir des fois. Et si oui, sur quoi tu le mets en garde ?
Bon, moi, j'ai deux garçons, en plus. Donc, tout était prédestiné pour que ça se passe comme ça aurait dû se passer ou ça aurait pu se passer. Mais en fait, j'en ai aucun qui est intéressé par le métier. Pour une raison essentielle, c'est le temps libre. Ben, c'est vrai qu'on est marié à un métier. Parce que moi, je suis en exploitation agricole avec mon épouse uniquement, là. S'il n'y avait pas mon épouse, déjà, je ne sais pas si je serais resté dans le métier ou de la même façon, parce qu'il faut quand même être soudé, être ensemble, être... Moi, je dois autant qu'à moi, quoi, je veux dire. Si je n'avais pas ma femme, je pense que je serais plus paysan, quoi. Parce que c'est un métier qui est très prenant, quoi, qui est complet. Je pense que mes enfants, c'était une des choses qui les a le plus éloignés du métier. C'est pas qu'ils n'aiment pas le métier, mais c'est cet aspect-là qui est difficile. Et du coup, je dis aux jeunes, si vous vous installez, installez-vous à plusieurs, en société. Parce que quand on s'installe comme moi, mari et femme, ben c'est assez difficile. Moi, je ne peux pas partir... au Baléares, et laisser ma femme à la maison, le contraire. Quoi,
c'est pas partir en vacances avec les gosses aussi.
Voilà. Alors on l'a fait, ça. Parce que c'était une autre période, et mes parents étaient plus jeunes et pouvaient nous remplacer. Donc on prenait pas mais une semaine, quoi. Voilà, on prenait une semaine. Voilà. Et après, c'est vrai que l'aspect difficile du métier, c'est celui-là. C'est l'aspect social, disons. Et on est un métier à part des autres, parce qu'on n'a pas les mêmes congés, on n'a pas les mêmes week-ends, ou ce genre de choses. Mais bon, quand tu aimes beaucoup ce métier, ce qui est mon cas, ben tu fais abstraction de ça, quoi. Mais tout de même, à des moments, tu te dis, bon, tu aimerais bien partir un peu, tu aimerais bien, mais c'est difficile, quoi. Difficile d'abandonner une exploitation agricole, de partir, de quitter tout ce que tu as créé, tout ce que tu as fait, c'est pas évident, quoi. Tandis que si tu es plusieurs sur le projet, ben, tu sais que tu as le collègue qui a la même vue que toi et qui va te remplacer, qu'il n'y aura pas de soucis. Quoi. L'agriculture t'apprend plein de choses. Déjà, elle t'apprend une chose majeure, à être humble. Parce qu'en fait, même si tu as tout bien fait dans ton boulot, ben, tu as toujours ou le temps qui t'explique que c'est lui le chef, ou les animaux qui te disent « Eh ben non, ce que tu m'as donné, c'est pas forcément ce qu'on attendait parce qu'on ne produit pas la quantité que tu avais, toi, calculée sur ton papier. » Donc, ça apprend au moins ça, d'être humble. Et quelque part aussi, ça apprend que la nature te rend toujours le meilleur qu'elle peut. C'est-à-dire que si une année, tu n'as pas trop de fourrage, mais l'année d'après, en général, ça se passe mieux. Si une saison, le froid, l'hiver, t'as abîmé les céréales, et bien tu as un printemps qui est bon et tu peux te refaire, à toi de ne pas rater l'heure et le moment, c'est tout.
Bon alors, toi déjà, ça fait longtemps que tu as toujours été dans l'agriculture, pardon. Tu l'avais évolué.
Ah, l'agriculture a énormément changé.
Elle a beaucoup évolué. Et donc, tu as vu cette évolution-là. Est-ce que tu as une idée de comment elle va évoluer dans les années à venir, l'agriculture ? Dans les 10 ans, 20 ans ? Que ce soit ici ou...
En fait, moi, je verrai un développement de vitesse. D'un côté, il y aura des exploitations qui vont être de plus en plus grosses. Mais pour une raison évidente, c'est le social. Parce qu'en fait, quand tu es tout seul sur l'exploitation, tout le volet social, ben, tu fais une croix dessus, les week-ends et compagnie, c'est mort. Quand tu es plusieurs, tu as possibilité de faire un week-end, l'autre, autre, prendre des congés, etc. Mais pour être plusieurs, il faut développer un outil capable de subvenir aux besoins de plusieurs personnes, quoi. Donc, faire un outil assez gros. Et de ce fait, après, cet outil-là, on dit c'est des grosses exploitations. Mais tous les gens qui voudront beaucoup de social, ils partiront vers ce système-là. Et puis après, à côté de ça, subsisteront des exploitations de type, je dirais, modèle familial, et plus petites, vente directe, voilà, ce genre de choses. Quoi. Mais qui seront forcément plus petites. Voilà. Mais la clientèle peut être la même, parce qu'en fait, à des moments, les mêmes personnes, elles ont besoin d'aller au supermarché, mais elles se regardent aussi de manger un petit qui vient d'à côté de chez elles. C'est la même chose que la pollution. La pollution, c'est toujours les autres qui polluent, c'est pas les humains.
There was sound.
Donc là, on arrive au poste de commandement de la ferme, dans ton bureau donc.
Voilà, tout à fait.
Et sur ton écran d'ordinateur, qu'est-ce qu'on voit ?
On voit ma bergerie.
La bergerie.
Les brebis ne quittent jamais.
Elles sont en train de manger.
Oui, pour une partie.
Là, tu peux faire tourner la caméra et tout.
Voilà, donc ça me permet de pouvoir, de la maison, surveiller l'intégralité du bâtiment. Mmh. Et de pouvoir, si le besoin est, descendre jusqu'à zoomer. À un agneau...
Tu peux zoomer aussi.
Voilà, on peut aller rechercher une étiquette si on voit une bête qui ne mange pas dans la journée ou quoi, tout en étant au bureau, en travaillant. Et tu vois, là, on donne le fouet ou ce genre de choses. Et donc, on peut, tu vois, je vais là, avec la petite loupe, là, et si je veux, je peux aller voir une brebis jusqu'à lire la boucle, si je veux, tu vois.
Ah ouais.
Voilà, tu vois, quand même, il y a une précision assez remarquable. Et ça nous permet, quand même, si on est à la maison, de pouvoir avoir un regard sur la bergerie.
Oui, voilà. L'image est très nette.
Si, c'est sympa. Après, tu fais ce que tu veux, donc il y a deux caméras. Il y a même une mouche
sur la caméra.
Et
tu as d'autres informations, type température, hygrométrie, tout ça ?
Alors ça, je l'ai, mais en bas, j'ai des sondes sur la bergerie. Après, on a aussi comme système connecté sur les fourrages. Quand on rentre du fourrage, l'été, on a des sondes qu'on met à l'intérieur des piles de foin pour surveiller sur le smartphone en permanence la température du foin, pour pas qu'il y ait des soucis d'échauffement et de risque de feu. Ouais. Après, j'ai aussi... Mais j'aime bien tout ce qui est connecté, donc j'ai un pluviomètre connecté, ce genre de choses.
Oui.
Voilà. Et après, donc, comme j'ai expliqué, un DAC, distributeur automatique de concentré en salle de traite, qui nous permet de donner la ration idéale à chaque brebis, quoi. Qui lit les boucles et distribue la ration programmée informatiquement auparavant, selon l'état d'engraissement des bêtes, selon la production des bêtes, selon l'âge des bêtes, et déjà on en donne un peu plus parce que dans la bergerie, comme partout ailleurs, c'est la loi de la jungle. Donc, c'est les plus vieux, les plus initiés qui mangent d'abord, et puis les autres, elles prennent les places qui restent.
Ceux qui connaissent la combine.
Voilà, c'est ça. Comme au self, ceux qui passent devant.
C'est ça,
Puis les autres. Voilà, c'est pareil. Donc, voilà. On
rentre dans le CNDC.
Voilà. Salle de traite. On va passer d'abord par la salle de traite.
D'accord.
Et après, on ira sur la bergerie.
Allez.
Et là, tu verras que. Mon épouse est déjà au travail parce que nous discutons tous les deux, mais pendant ce temps, il y en a qui travaillent.
Pour qu'ils bossent,
voilà, c'est ça. Quoi. Donc, dans la bergerie, il y aura mon épouse ainsi qu'un jeune apprenti qu'on a en stage et qui fait ses études à Sainte-Afrique à la Casotte. Voilà.
Je referme ?
Non, je fermerai là.
Ok.
Je fermerai celle-là pour pas que le chien. Voilà, donc là, tu vois, c'est ma partie salle de traite. Hein,
ouais.
Avec donc ce que je te disais là, l'automate qui permet de donner aux animaux. Donc tu vois, il y a deux compartiments. Et donc, un aliment ou l'autre, ou les deux, selon la quantité qui est choisie. Et donc, il y a un aliment qui est plutôt riche en protéines et l'autre plutôt riche en énergie. Mmh. Et donc, en fonction des quantités d'un et de l'autre, on peut complémenter les bêtes selon leurs besoins.
Ah, ouais.
Pour coller au plus proche du besoin
donc, des animaux. Donc j'explique qu'il y a une machine qui passe au-dessus des, comment on appelle, des auges.
Des auges et des nourrisseurs.
Voilà, et qui distribue les aliments. Et la machine, elle se raille, elle circule au-dessus.
Et elle est capable de lire les boucles.
En plus.
Voilà, ce qui permet...
En plus, elle est maligne.
Voilà. Ouais. Voilà. Pas intelligente, là, parce que l'intelligence, c'est celle qu'on y a mis dedans.
Elle sait lire, déjà, donc c'est pas mal. Ensuite, bon, là, il y a le tank, j'imagine.
Le tank, derrière.
T'as combien de litres dans ton tank ?
Alors là, pour le moment, pas. Parce que les brebis...
De quelle capacité ?
Oh, c'est un tank qui ferait 1005.
1005, d'accord.
Mais en fait, j'ai jamais eu plein.
Ah, d'accord. Et voilà les brebis.
Regarde ça, belle.
Ouais.
Les petits agneaux.
Ah oui.
Oui, c'est pipi. Et elle est belle parce qu'elles sont comme nous, quand on a faim.
Eh bien,
ouais. Voilà,
un gueule.
Un gueule, là, c'est pareil. La partie qui a mangé, de le moins.
Ouais.
Et les ventres, elles attendent qu'on ouvre les mangeoires pour pouvoir manger.
D'accord.
Après, dans la suite, là, on serre toutes les brebis, on enlève les agneaux des brebis, on les laisse à part le temps qu'on passe les brebis à la machine à traire pour enlever le surplus de lait qu'elles ont.
Et alors, pourquoi vous ne les faites pas manger en même temps puisque la nourriture y est ?
Parce que, en fait, on décale les données, parce qu'on s'occupe d'un côté de la bergerie, là, c'est celle qui met bas. et au moins ça nous permet d'être plus disponible pour l'autre côté. Et quand on ouvre les mangeoires, il faut se méfier parce qu'il ne faudrait pas que les brebis elles arrivent à étouffer un agneau en montant dessus ou tout ça. Donc on surveille l'ouverture des mangeoires.
Ah, okay.
C'est pour ça qu'on décale les deux côtés. Et mon épouse donc, qui revient.
Oui. Chargée de...
De seaux, parce qu'elle est allée s'occuper des petits agneaux. Et regardez qu'ils aient bien têté à leur mère pour pouvoir les lâcher après. Voilà.
Eh bien, bon. Bravo.
Très bavard, hein.
Oui, oui, il parle bien. Bon, ça va, ça se passe bien.
Très bien, ça va, bon. Ça va. Les naissances se calment, voilà.
Bon, voilà. Il y en a eu aujourd'hui, des naissances?
Aujourd'hui, il y en a eu trois.
Trois, voilà. D'accord.
Donc c'est calme.
Il y a des jours,
voilà.
Il y a des jours, c'est bien pire. Ouais.
On en a 50 mères qui mettent bas.
Ah, voilà. Ah oui. Ah ouais, là, il faut y être.
En permanence.
Ouais. Ouais. Et c'est plutôt la journée ou plutôt la nuit que mettent
bas? Tout le temps.
Tout le temps.
Ouais. Les brebis, ouais. C'est tout le temps.
50, ouais, ça fait deux par heure.
Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça.
Et alors, ils sont bagués de suite, hein, les agneaux, quand ils naissent?
Quand ils naissent, on les rentre en petites cases individuelles.
Ouais.
Voilà. Et une fois qu'ils sont autonomes, qu'ils têtent tout seuls, là, on les identifie. Voilà. Et là, on les lâche en lot.
L'identification reste jusqu'à ce qu'ils soient plus chez nous, quoi.
Ouais.
Et là, par exemple, il y a une case à agneaux. Et alors, tu vois, ils ont la possibilité...
Oui.
Il y a des barres, des barreaux. Ils ont la possibilité d'être tranquilles et de venir commencer à manger tout seul.
Ouais.
Ou ils peuvent aller téter comme ils veulent. C'est la cour de récréation.
C'est les seuls à pouvoir passer entre,
voilà,
les barreaux.
Et les mamans peuvent pas venir.
Ils sont tout bébés, ceux-là.
Ah oui, oui.
Ils ont quel âge ?
Il y en a qui ont deux jours.
Deux jours, oh là là.
Ouais.
Mais... Celui-là, là, qui a deux ans, il est né hier soir.
Hier soir.
Voilà. Oh. Et il a un petit frère ou une petite sœur, je ne sais pas. Ils sont deux.
Et là, il a fait.
Il appelle sa maman.
Ouais. Il appelle sa mère.
Et la queue, il y a un cercle sur la queue, c'est pour pouvoir le couper derrière?
Oui, alors en fait, c'est un système pour la colectomie, pour enlever la queue aux agneaux.
Ouais.
Parce que c'est les femelles, on fait ça parce que les brebis, quand on traite les brebis,
ouais,
la queue, elle pend sur la mamelle, et si elle est sale, par exemple... Au printemps, quand...
Quand elles vont à l'herbe, si elles ont un peu de diarrhée, c'est pas hygiénique.
C'est pas hygiénique pour la prote. Hein. Ah. Voilà. Et on le fait le plus tôt possible à la naissance, par rapport à la sensibilité de l'agneau, quoi, qui souffre pas, quoi.
D'accord.
Voilà. Et en fait, le principe, c'est que ça, c'est un garrot, ça arrête
la
l'irrigation.
Sanguine, ouais.
Et du coup, tac, la queue, après, elle
s'achète. Et après, ça tombe tout seul.
Voilà.
Ah ouais, d'accord.
Sans intervention.
Ah, c'est marrant.
Et là, il faut que tu vois ça. Ah. Là, on met un récipient avec des tétines tout le tour.
Uh-huh.
Et ce sont les agneaux qui n'ont plus leur mère, pour plusieurs raisons. Ou c'est des naissances multiples, et que la maman ne le fait pas téter, parce qu'elle l'aime pas ou parce qu'il y en a trop.
Uh-huh.
Et donc, on leur donne du lait, qu'on récupère aux mères que je traite tous les jours, là. Et on recycle le lait, quoi.
D'accord.
Voilà. Donc, voilà.
Bon, ils viennent te voir et tout, ils sont
habitués. Ouais, ceux-là, ils sont habitués à venir manger.
Un petit mot pour Radio Sainte-Afrique.
Ils sont pas là-bas. Ouais.
Bon, là, on a à peu près fait le tour.
On a fait le tour, après... Après, il y a la basse-cour, c'est ma maman qui s'en occupe. Hein.
Ouais.
Les lapins.
Les lapins,
c'est une ferme.
Ben oui.
Voilà, c'est une vraie ferme. Ouais. Voilà. Comme celle qu'on voit à la télé.
Là, en hauteur, un peu.
Voilà.
Tranquillou.
Ah oui, sur le promontoire. Hein.
À l'écart du monde, mais tu peux quand même l'observer.
Ah ouais, tu vois tout. Ah ouais, c'est sûr. Tu domines sur la butte qu'il y a derrière la bergerie, eh bien, tu domines toute la vallée du Dourdou. Et après, tu vois les éoliennes, les fameux ventilateurs sud-africains. Et tu vois les ventilateurs, les mers de loup.
Voilà,
c'est très bien. On est entouré de ventilateurs.
Ouais, c'est pour ça qu'il y a tout le temps du vent.
C'est pour ça qu'on a la clim ici.
Bon, en tout cas, Jacques, je te remercie d'avoir pris tout ce temps.
Alors, mis le plaisir.
Tout bien expliqué avec passion.
Oui, voilà. Mis le plaisir et je tiens à le dire à ce micro. Et c'est une idée géniale d'avoir enfin interviewé les gens qui font vivre un pays et donc des paysans. Voilà.
Eh bien, merci, Jacques. Allez, je fais stop.
Voilà.
Merci, Sylvie aussi.
Merci à Jacques pour son sympathique accueil et son franc-parler. Ce programme est disponible gratuitement en podcast sur le site radiosaintafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.